Bonjour chers amis, je vais demander au Seigneur de nous bénir durant ce moment de partage biblique. Seigneur Jésus, tu es vivant au siècle des siècles et tu es la source de tout amour, de toute vérité dans nos cœurs. Ta parole est sainte et peut chez nous nous transformer complètement si nous donnons notre foi à ta personne et à ta parole. C'est cela que je te demande aujourd'hui pour tous ceux qui entendent, qui écoutent. C'est que chacun de nous donne son cœur à toi, Seigneur Jésus, et à ta parole. Soyez bénis, mes chers amis. Aujourd'hui, soyez bénis. Que Jésus fasse son œuvre merveilleuse en vous. Comme il l'a fait depuis des siècles, dans beaucoup de personnes, et qu'il le fait à travers le monde. Amen. Vous vous êtes sans doute déjà promené à plusieurs reprises. Vous êtes déjà sans doute arrêté aussi. Et puis vous êtes resté dans le silence devant un marais, une mare d'eau, où l'eau ne bouge pas. Elle est comme un miroir. Et puis l'eau est assez profonde, elle est sombre, on ne voit pas le fond. Et il y a quelques nénuphars qui éclate de lumière, parce que le soleil les inonde de lumière et ils vous rendent cette lumière. Ces nénuphars sont magnifiques. On dirait au Japon que les lotus nous émerveillent, chez nous c'est les nénuphars. Et puis il y a une branche d'un arbre, d'un saule ou d'un autre arbre qui est au-dessus de la mer, de l'étang. Et il y a un martin pêcheur, puis un deuxième qui arrive. Et tout d'un coup, ces martin pêcheurs plongent dans l'eau et ressortent avec un petit poisson. Ces martin pêcheurs sont merveilleux, de couleur. Quelques temps plus tard, il y a une carpe, puisque c'est une mare, un étang, il n'y a pas de truite, il n'y a pas de grands brochets, mais il y a des carpes. Des poissons qu'on ne mange pas, mais qui sont bons pour d'autres individus. Une carpe saute, rebondit quelquefois, et puis tout d'un coup, un rapace arrive et bondit sur la carpe, plonge même dans l'eau, la saisit et ressort de l'eau avec la carpe et part pour nourrir sa nichée. J'ai oublié le nom de ce rapace, mais il est efficace. Pauvre carpe. Vous voyez, la mare peut nous créer des états d'âme, l'étang peut nous apporter des réjouissances. J'étais avec mes amis, deux de mes petits copains, on était pendant des années, on partait à travers la forêt, et à 3-4 km d'ici, il y avait des étangs, derrière un château, le château de la Clairaut, il y avait des étangs. On aimait s'asseoir, on aimait regarder le reflet du ciel, des nuages, du soleil, et des arbres à travers ce miroir déposé sur la surface de l'eau. Cela, c'est une chose. Mais il y a aussi la grande joie qu'on peut avoir lorsqu'on voit un torrent qui coule de la montagne, qui bondit et qui écume. Et puis, lorsque le soleil jette ses rayons, on voit comme l'arc-en-ciel. On voit comme l'arc-en-ciel. La lumière se divise dans tous les spectres et couleurs et ce torrent permet à la lumière de démontrer toutes ses qualités, ses composantes. Nous avons été une fois campés en Norvège, en famille, et à cette époque, les torrents coulaient tout doucement. Et nous avions logé dans la montagne, très loin de toute habitation, et nous avons trouvé une petite cascade. Et cette eau coulait sur le granit et était réchauffée par le soleil, et on pouvait se mettre sous cette douche, sous cette cascade, et se laver. C'était infiniment agréable. En aval, il y avait comme des petites baignoires, ce qu'on appelle des marmites en géologie, qui sont creusés quand le torrent coule très rapidement et qu'il y a des cailloux, des galets qui tournent. Et nous étions chacun de nous dans une de ces marmites, une de ces baignoires. et où l'eau était chaude, et nous étions au soleil. Qu'est-ce que nous étions heureux, loin de toute habitation, loin de la Belgique, sous le soleil, dans une eau pure, éclatante, de pureté. À tout prendre, c'est l'eau du torrent qui nous a fait du bien, qui nous a lavé, qui nous a permis d'apprécier la chaleur du rocher et la grandeur du ciel. Nous étions dans l'eau. Dans le cas de la mare, nous n'étions pas, on ne pouvait pas aller dans l'eau. Si on allait dans cette eau, on pouvait s'y enfoncer et y mourir. Je pense que parfois, nos vies sont comme la mare. Tout paraît brillant, avec les nénuphars, la carpe, etc., les martins pêcheurs. Il y a des choses qui semblent très belles dans notre vie, mais tout compte fait, on s'y enfonce et on ne s'en sort pas. C'est une image de la vie qui parfois se répète et souvent qui s'aggrave lorsqu'on n'a pas trouvé le torrent. Et cette autre eau qui est vive et qui peut nous laver, qui peut nous réconforter et nous apporter le bienfait, la chaleur du soleil en même temps. Voilà, ce sont deux images pour vous montrer que la vie des hommes peut être d'une sorte ou d'une autre. Il me semble impossible d'être pur et heureux sans la gloire du Seigneur, sans la gloire de Jésus qui est pur et sans péché. Il me semble impossible pour moi, c'est une conviction profonde depuis que je suis enfant et je l'ai toujours cherchée. Et d'autres en sont convaincus et vivent de cette foi dans le Seigneur Jésus qui est vivant et apprécient ce torrent d'eau vive qui coule en eux. Jésus a dit que celui qui croit en moi, des torrents d'eau vive couleront de son sein. Et il s'agissait du Saint-Esprit, chapitre 8 de Jean. Le Saint-Esprit, la vie divine est donnée. Dieu est donné dans le cœur de celui qui a accepté Jésus. Et là, c'est le torrent de la Norvège, c'est le torrent de vie en nous. Ce n'est plus l'étang, la mare, aussi belle soit-elle, où si je me risque à rentrer dedans, je m'y enfonce, je peux y mourir. Donc, cette image pour moi est très importante. Jésus est quelqu'un qui apporte l'eau vive, qui est la source d'eau vive en nous. Ce n'est pas quelqu'un qui a apporté la domination par l'épée, par l'or, l'argent, etc. Le vrai Jésus de Nazareth, dans l'Évangile, est cette eau vive. Et il est aujourd'hui ressuscité, et c'est celui-là que nous partageons ensemble dans la parole de Dieu. Ce n'est pas un Jésus déformé par l'histoire et par des institutions. C'est le Jésus de sa parole, que nous pouvons trouver dans sa parole. Avant d'être totalement Jésus, je n'étais pas encore moi-même. Et j'étais parfois bien sombre dans mon cœur. Et il n'y avait pas de vraie eau vive en moi. Je désirais l'eau vive. Et je cherchais à tout prix cette eau vive. Aujourd'hui, c'est comme une espèce de virginité qui a été déposée en moi. De purification qui a été déposée en moi. La présence de Jésus m'a rendu vierge à quelque chose qui avant me corrompait. Je pouvais m'adonner à plein de choses et m'y plaire. Et aujourd'hui, c'est comme une vierge. C'est-à-dire que je reste propre pour lui. Je me garde pour lui. Et dans mon âme, il y a une extraordinaire capacité d'accueil à Jésus qui s'est développée au fur et à mesure du temps. Qui n'est pas du fanatisme. C'est une grande paix, c'est une douceur, c'est une bienveillance pour Jésus, c'est une adhésion profonde et volontaire et libre. Cette adhésion à Jésus est sans encombre. Sans encombre. Elle n'est pas là avec des tortures, peut-être bien que oui, peut-être bien que non. C'est arrivé dans le passé. C'est sûr que c'est arrivé. Il m'a fallu les conseils de beaucoup d'amis, il m'a fallu beaucoup de lectures dans la parole de Dieu et des prières des autres, et aussi la mienne. Donc l'éveil à Jésus est progressif. Dans l'esprit, dans le cœur, dans l'âme, dans le corps, il est progressif. Dieu est là, Jésus est là, mais il est vivant, il est caché en moi et il va se dévoiler au fur et à mesure que ma foi grandit. Et ce n'est pas de l'autosuggestion. Chers amis, ce que je voulais vous dire, c'est que la foi en Jésus, ce n'est pas une sécurité imaginaire. Ce n'est pas une sécurité comme quand je mange, ou que je regarde un film, ou quand je vais sur Internet, je prends des distractions, ou quand j'écoute de la musique, quand je vais voir un psychologue, ou quand je prends des médicaments. Ce n'est pas une sécurité de ce genre-là. Ce n'est pas une sécurité qui naît de la méditation transcendantale, ou de l'autosuggestion, ou de la communion à des puissances énergétiques. C'est une sécurité due à la présence de la personne de Jésus ressuscité. Cette personne me parle à travers sa Bible, et cette personne de Jésus me donne la lumière dans mon cœur. Ce n'est pas un acte sociologique. Ce n'est pas parce que mon papa et ma maman étaient chrétiens que je suis devenu chrétien. Ils y étaient opposés. Et toutes les écoles où je suis passé dans ma jeunesse étaient totalement indifférentes à Jésus, voire opposées. Ce n'est pas à cause de la sociologie, de la société que je suis devenu chrétien. C'est parce que le Seigneur a parlé à mon cœur. Je voulais quelque chose de plus que ce que ce monde m'offrait. La dissipation sexuelle, dissipation des beuveries, dissipation des amitiés, des camaraderies, des rigolades, etc., des mauvaises blagues, et des voyages, et de toutes sortes de distractions. Je voulais quelque chose de plus profond, d'objectif, de fondé, de sérieux, de fondation solide, et pas des sables mouvants. Je vous souhaite aussi de rechercher des fondations sérieuses. La fondation sérieuse n'est pas en ce monde, parce que tout le monde est touché par le péché. Elle est chez quelqu'un qui est sans péché, et qui nous aime, et qui est venu sur la terre. Dieu l'a envoyé pour que nous connaissions le rocher solide, la pierre angulaire, sur laquelle on peut bâtir la foi. Et ça, c'est la promesse de la parole de Dieu dans Isaïe et dans le psaume 118. Alors, c'est une fondation objective. Et cela, on ne peut le faire que parce qu'on l'a demandé à Dieu. Que lorsqu'on le demande, Jésus vient à nous. Et à travers sa parole, il m'instruit. Et un jour, il y a un événement qui se passe dans mon cœur pour me montrer qu'il est vivant. Parce qu'on a demandé des signes. On a demandé des confirmations, parce qu'on a déposé nos fardeaux, parfois nos égarements considérables ou peu considérables. On a déposé notre pauvre nature à Jésus. Il y a comme une guérison et une profonde paix. À ce moment-là, nous sommes amis de Jésus et nous sommes réconciliés avec lui. Parce que Jésus est venu dans notre vie, nous l'avions invité. La parole de Dieu dit: « Voici, je me tiens à la porte, Apocalypse chapitre 3, verset 20, je frappe, et si tu entends ma voix, j'entrerai, je mangerai avec toi, tu mangeras avec moi. » Donc Jésus, vous voyez, ne vient pas comme un dominateur, mais comme un ami, un frère. Il faut vous rappeler que lorsque Adam et Ève se sont séparés de Dieu, alors qu'ils avaient tout, ils n'allaient pas mourir. Et ils avaient la présence de Christ auprès d'eux, de l'arbre de vie. Ils avaient toutes les qualités spirituelles qu'un homme peut avoir, comme Dieu l'a toujours souhaité. Dieu leur avait donné la ressemblance à Christ. Il avait été créé à la ressemblance. Quand ils écoutent Satan, simplement ils veulent être quelqu'un par eux-mêmes, sans Dieu, sans l'arbre de vie, sans Christ. Ils acceptent ce pacte, ils le signent et ils dégringolent. Ils se retrouvent tout nus, c'est-à-dire sans cette gloire qu'ils avaient, sans cette paix qu'ils avaient, sans cette pureté qu'ils avaient, Et sans cet amour pour Dieu qu'ils avaient, et sans amour entre deux, l'homme et la femme. Alors ils se cachent. Et dans le livre de la Genèse, au chapitre 3, versets 8 et 9, le Seigneur appela l'homme et la femme. Où es-tu? Où es-tu? Cela se répète à plusieurs fois dans la Bible. Où es-tu? Toi, mon cher ami, ma chère amie qui écoute, où es-tu quand Dieu t'appelle? Si tu réponds, tu dois savoir que Jésus, que Dieu le Père te cherche. Il te cherche. Lorsque je cherche Jésus et que je lis sa parole, ses enseignements, je m'approche de Dieu, mon Créateur et mon Père des cieux, que je ne connais pas, mais je m'approche sans m'en rendre compte, c'est Jésus qui va me mettre en contact avec le Père des cieux, qui va rétablir la relation. Il est là pour ça. C'est lui qui me réconcilie avec lui. Et c'est lui qui a payé le jour de Pâques ma dette, ce que je devais à Dieu pour tous mes égarements. C'est lui qui a payé et je suis lavé de toute dette. Je suis lavé de cette accusation d'être un imposteur, un offenseur de Dieu. Et je peux être l'ami de Dieu, l'enfant de Dieu. Quand Élie se retire dans la grotte, parce qu'il a peur, il y a eu des vents violents, il y a eu des tremblements de terre, dans un roi, premier livre des rois, chapitre 19, versets 8 à 13, Élie ensuite constate qu'il y a un calme souverain. Et il sort de la grotte, il se tient à la sortie de la grotte, et il écoute la brise légère. Il voit une brise légère et Dieu lui parle. Et Élie se croyait tout seul abandonné de Dieu. Il se croyait tout seul. Et Dieu vient à sa rencontre. Rappelez-vous que Jésus est sorti de la grotte aussi, du sépulcre, que c'est les anges qui ont ouvert le tombeau. Et que Jésus, après avoir été accusé à notre place de tous les péchés, d'avoir souffert pour nous, s'est trouvé réconcilié avec son Père. Dieu a envoyé les anges pour ouvrir le tombeau. Jésus a proposé aux hommes de payer notre dette à notre place. Et il était dans la grotte. Il a connu l'angoisse. Il a été seul à un certain moment. Mais quand il sort, les anges ouvrent la grotte. Il est un peu comme Élie. Son Père est avec lui. Et ce drame de la croix est fini. Mais c'est un drame qui est rédempteur pour nous. À partir de ce moment-là, notre dette, nous les humains, est payée. Et une grande proximité avec Dieu est possible. Nous devons sortir de la maladie de l'indécision, de la religiosité, du non-engagement, de je verrai bien plus tard, de la temporisation des grands choix vitaux. Nous devons chercher une rencontre avec Dieu, comme Élie l'a fait. Et nous devons chercher cette rencontre comme Jésus, à la résurrection, l'a eu avec son Père. Et quand il est revenu vers ses disciples, fort de l'union avec son Père, c'était pour donner le Saint-Esprit, donner la vie éternelle. Donc le torrent d'eau vive dont je vous ai parlé, que Jésus veut nous offrir. Si je guéris au plan de la communion avec Jésus, que je l'accepte dans mon cœur, je guéris au plan de la communion avec mon Père des cieux, que je verrai plus tard. Et je guéris aussi au plan, au niveau des vraies relations humaines, des relations humaines profondes. J'entre dans une autre façon de vivre avec les autres sur terre. Je deviens différent. Il y a une profondeur, il y a une largeur, il y a une hauteur de l'amour de Jésus en moi qui se répand à travers moi et qui crée en moi une faculté de profondeur pour les autres, une faculté de vérité pour les autres. Dans notre société, l'amour du plaisir nous a écartés de l'amour du vrai, L'amour de soi-même nous a écartés de l'amour des autres. Mais avec Jésus, ce n'est pas l'amour du plaisir, c'est l'amour du vrai, de la vérité, parce que Jésus est la vérité, il est le véritable. Et si j'ai de l'amour pour Jésus, l'amour du vrai se développe en moi. Il développe ma faculté de l'amour du vrai, du profond, du sérieux. Et on peut être heureux et joyeux en même temps. Parce que la vérité est joyeuse. Plus la part de Dieu est grande en moi, plus l'approche des autres sera grande en moi. Plus la part de Dieu sera considérable en moi, plus la part d'ouverture aux autres sera considérable. Plus le courage jaillira pour aider mon prochain. Une relation de sans gêne avec Dieu n'exprime pas la foi. Beaucoup de gens ont été baptisés, sont mariés et enterrés dans un contexte religieux. Mais c'est une relation de sans gêne. On se moque de Dieu et on ne veut pas se gêner un petit gramme pour Dieu. Et on rit de Jésus. Si quelqu'un s'y intéresse, on en rit. Ce que je veux dire, c'est qu'une relation sans gêne avec Jésus est une relation de sans gêne avec Dieu. Et une relation de sans gêne avec Dieu n'exprime ni la foi, ni l'amour pour Dieu, ni l'amour pour les autres. Il n'y a pas en nous de ressort et de profondeur pour aimer les autres. Ce n'est que superficiel. C'est narcissique. C'est un amour qui se détournera toujours des autres, tôt ou tard, qui ne sera pas fidèle. Une relation profonde avec Jésus n'a d'autre objectif que de me rendre différent et de me disposer à être semblable à Jésus. Une relation profonde avec Jésus a un objectif, c'est de me rendre semblable à lui pour aimer Dieu sérieusement et les autres sérieusement et moi-même sérieusement. Donc de donner une valeur sacrée à la vie. Quand Dieu rencontre Ésaïe, le livre d'Ésaïe, chapitre 6, verset 8, il dit « Qui vais-je envoyer vers ce peuple qui est impur ? Qui va marcher pour nous ?» Parce que Dieu, Père, Fils et Esprit Saint, c'est un seul Dieu, mais trinitaire. « Qui va marcher pour nous ?» Ésaïe dit « Me voici, envoie-moi » Chers amis, pourquoi pas vous ? Pourquoi pas moi ? Pourquoi pas devenir responsable pour Dieu ? D'une part, de son amour, de son esprit envers les autres. Pourquoi ne pas saisir ce trésor pour le partager aux autres? Pourquoi ne pas être une source qui abonde, qui déborde comme une fontaine? Et non pas une source qui s'est tarie et qui ne sait rien donner aux autres de profond et de vrai. Donc, dans Ésaïe chapitre 6, verset 8, quand Ésaïe répond « Me voici, envoie-moi », c'est parce que dans le texte, on voit que Dieu a pris une braise avec une pince et lui a purifié les lèvres. Il a tout purifié en lui, tout purifié en Ésaïe, pour qu'il puisse le servir. Et vous savez, dans Hébreux chapitre 1, versets 1 à 3, Dieu a parlé par les prophètes dans l'ancien temps, mais il a aussi parlé par Jésus son Fils, qui est le reflet de sa gloire, le resplendissement de sa personne, qui soutient tout par sa parole puissante et qui a fait la purification des péchés. Lorsque nous acceptons le Seigneur Jésus dans notre vie, il fait automatiquement la purification de mon âme, de mon esprit. C'est l'œuvre divine de Jésus en moi. Je ne peux pas devenir meilleur sans l'œuvre de Christ en moi. Ce serait une source d'orgueil que de prétendre être un jour semblable à Jésus, en face de Dieu, sans Jésus, sans l'œuvre merveilleuse du Christ en moi. Naturellement, si on veut être merveilleux à ses propres yeux, aux yeux de la télévision, aux yeux des copains, c'est pas grave ça. Adam et Ève ont essayé, ça a mal tourné. L'histoire humaine nous a montré que l'orgueil humain n'arrivait nulle part. Donc, ne nous intéressons pas à cet amour, soi-disant, de la vérité et de paraître bon de paraître bon. Pourquoi ? Parce que Jésus dit clairement que c'est au fond de notre cœur que viennent toutes les pensées de la folie, de l'impureté, de la méchanceté, de l'infidélité. Tout cela au fond de notre cœur. Paul, dans Romains, dit, au chapitre 3, que nul n'est juste. Tous sont pécheurs, tous sont privés de la gloire de Dieu. Nul ne connaît le chemin de la paix. Tous ont du sang sur les mains. Tous ont du venin de serpent sur la langue. Tous sont privés de la gloire de Dieu. Mais ils sont gratuitement justifiés, c'est-à-dire pardonnés, en Jésus-Christ, par son sang. L'apôtre Pierre, dans son épître, dit que nous avons été libérés de la vaine manière héritée de nos pères d'aimer Dieu et de l'adorer. Ce n'est ni par l'or ni par l'argent que nous pouvons adorer Dieu. Donc en faisant des temples, en mettant des basiliques, etc., en faisant des collectes et en ayant un beau Vatican ou des belles mosquées, etc., peu importe, des beaux monuments pour Dieu. Tout cela, Pierre dit que ce sont des vaines manières héritées de nos pères, qui n'ont pas réglé notre péché. Mais il dit que nous sommes sauvés par le sang précieux de l'agneau prédestiné avant la fondation du monde. Allez lire dans la première épître de Pierre, chapitre 1, et vous verrez que l'apôtre Pierre s'est rendu compte que les actes religieux, la religion où il était, ne lui apportaient pas cette purification et ce salut, qu'il était gratuitement justifié et pardonné par le sang précieux de Jésus à la croix, prédestiné avant la fondation du monde. Le Christ s'était engagé éternellement en ayant vu ce péché d'Adam et Ève à sauver toute l'humanité. Donc, une relation profonde à Jésus, c'est une relation profonde à un plan éternel prédestiné d'avance. C'est rentrer dans un programme divin pour restaurer l'humanité. C'est rentrer dans un programme divin de l'amour divin. Et ce n'est pas une domination de Dieu sur l'homme, comme la religion souvent utilise. Les religions utilisent le nom de Dieu pour dominer sur l'homme. La domination au nom de Dieu est un classique dans l'exercice de péché, comme au nom de l'argent, comme au nom de l'armée, comme au nom d'un tas de choses, du sexe. C'est des classiques, mais ce n'est pas ce que Dieu a voulu. En Jésus, ce n'est pas ça. Jésus est venu pour transformer notre vie. Je prends Philippiens, chapitre 3. Philippiens, c'est donc une épître écrite à des chrétiens qui habitaient la ville de Philippe, donc en Grèce. Paul dit ceci au verset 3. Les circoncis, c'est-à-dire les hommes religieux, les vrais croyants, si vous voulez, mais pas circoncis dans la chair au niveau de... du sexe, de manière religieuse, mais circoncis dans le cœur, dans l'âme. On a retiré le péché, on a sorti ce qui était là, qui était mauvais. Hein? Les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu. Je vous ai dit que l'eau de la Norvège, l'eau du torrent, nous lavait. On avait pu se baigner dedans, expérimenter la chaleur et l'éclat de l'eau. Et l'éclat du soleil, de la lumière, de l'arc-en-ciel qui se faisait à travers l'écume. Mais pas dans la mare, pas dans l'étang. Quoiqu'il y ait eu des nénuphars et des martins pêcheurs, la mare ne représentait pas la vie pour nous. Eh bien, c'est la même chose. C'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance dans la chair, c'est-à-dire dans l'humain. Quand on est chrétien, quand on accepte Jésus, on aime l'humain profondément, comme Dieu l'a toujours aimé. Et on aime que l'humain soit un jour dans la gloire de Jésus devant Dieu. On aime partager ce plan qui est préétabli d'avance, où tous sont appelés, et tous ne répondront pas, malheureusement, mais tous sont appelés. Et nous mettons confiance en notre Dieu, dans la puissance du Saint-Esprit, mais nous savons que par nous-mêmes, nous ne pouvons pas les convaincre. Et nous-mêmes, nous ne sommes pas venus à la vie éternelle par nous, simplement par notre bon vouloir, notre faculté imaginaire, notre volonté, ou par l'influence d'autres. C'est par le Saint-Esprit. Nous ne mettons pas notre confiance dans la chair. Au chapitre 2, verset 13, « C'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. » Dieu est tellement un bon papa qu'il sait à quel moment il faut agir dans mon cœur, dans ma vie, diriger mes sentiments, me freiner quand je vais commencer à refaire, à dire des vilains mots, avoir de mauvaises pensées ou faire des mauvais choix. Me freiner, m'arrêter même. Ou me donner la honte sur tel et tel péché. Mais Dieu va toujours me montrer son amour dans la relation. Quand on croit en Jésus, la relation est toujours une relation d'amour. Ce n'est pas une religion de désastre, de culpabilisation. C'est une relation d'amour. Il n'y a point de culpabilité pour celui qui croit en Jésus-Christ. Romains 8, verset 1. Eh bien ici, dans Philippiens, chapitre 2, verset 13, « C'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. » Quand un arbre produit des pommes, c'est un pommier. Un prunier produit des prunes, c'est un prunier. Quand un homme est dirigé par le Seigneur, on voit les fruits. Et ce sont des fruits qui viennent de Dieu. Tiens, c'est bizarre, il n'est plus comme avant. Eh bien, je vais vous témoigner de quelque chose. J'étais en régence en virtant à l'école normale de l'État. Ce n'était pas un milieu particulièrement encourageant pour avoir la foi en Jésus. Mais je croyais dans le Seigneur Jésus, mais figurez-vous, même si j'avais lu l'Évangile, que Dieu était déjà intervenu dans ma vie, je n'étais pas en ordre. J'étais en bagarre avec mes parents et je ne leur parlais pas depuis 3 mois. À ma grande honte, même s'ils avaient des torts, je n'aurais pas dû faire ça. J'employais la guerre pour répondre à la guerre ou à l'incompréhension. Alors qu'ils m'aimaient et qu'ils étaient maladroits simplement. Simplement, ce que je veux dire, c'est que j'étais monté en tour, comme on dit. Je bouillonnais de colère. Et je suis rentré une fois dans ma chambre et il y avait un petit crucifix. Maintenant, je n'ai plus besoin de crucifix dans ma chambre ni dans la salle de culte. Parce que le crucifix, c'est fini. Il y a 2000 ans que la croix a eu lieu. Il n'y a pas besoin de croix, de cadavre sur une croix. Jésus est vivant dans mon cœur. Mais à cette époque-là, j'avais encore un petit crucifix. Magnifique. Je passe devant le crucifix et je dis, depuis que je te connais, je n'ai que des emmerdes. Je m'excuse de vous dire cela. J'étais en colère contre mes parents. Et j'étais en colère contre le Seigneur Jésus. Je me suis installé dans mon lit, j'ai tiré ma couverture, et puis tout d'un coup, dans mon cœur, le Seigneur Jésus me disait, « Je ne t'ai jamais fait de mal, pourquoi tu me parles comme ça? Pourquoi tu m'accuses de mal? Tu sais bien que je t'aime. » C'est une parole intérieure dans mon cœur, les amis. J'étais bouleversé. C'est le Saint-Esprit qui dit ça, qui a touché mon cœur. Parce que Jésus est pur de son péché. C'est moi qui étais dans le péché, dans la colère. Jacques le dit, la colère n'accomplit pas la sainteté de Dieu, la justice de Dieu, dans son épître. Alors j'ai dit ceci, pardon Seigneur, je suis comme un petit voilier, un petit bateau, avec un mât, la voile est entourée autour du mât, le vent a beau souffler, il n'avance pas. Je te dis franchement, Seigneur, je n'avance pas, je stagne. Je stagne, pourtant je crois en toi, je stagne. Seigneur, aujourd'hui soir, j'ouvre la voile et tu souffles dedans et demain, je veux vivre avec toi. Je veux que tu me pousses en avant. Le lendemain, j'avais oublié ces événements, je suis parti à l'école normale, j'étais le seul externe. Tous les autres étaient internes. Donc, ils étaient contents de voir arriver l'externe dans la classe. Hein? Et pratiquement, j'arrive avec mon vélo, puis plus tard, avec ma moto. Je vais travailler, je vais de moto. Et j'étais différent. Mais moi, je ne m'en étais pas rendu compte. Quand l'année a été finie, qu'on avait notre diplôme, nous sommes partis à Mont-Saint-Wolfroy, dans les prairies. Nous avions acheté chacun un camembert, une baguette française et une bouteille de vin rouge. Ouh là là! Gare aux dégâts. Et pratiquement, nous avons rigolé, nous avons été bien ensemble. Et tout d'un coup, dans les conversations, ils se sont tous tournés vers moi. Jean, on n'a rien compris. Un tel jour au matin, tu n'étais plus le même. Tu n'étais plus le même. Je les regarde tous, j'étais éberlué. Et puis, je me suis rappelé ce qui s'était passé. Et je n'ai pas osé le dire. Maintenant, je le dirai. Je dirais que Jésus avait changé mon cœur, que je vais demander pardon pour ma colère, que j'avais donné vraiment toute la place à l'Esprit-Saint de Jésus dans ma vie. Je croyais, mais je ne laissais pas l'Esprit-Saint me diriger. Alors, hier, je vous répète cela, ça fait 50 ans que nous avons fini, 51 ans que nous avons fini l'école normale. Il y a un copain de ma classe qui me retéléphone hier de cette année fameuse où ils m'ont tous dit « On n'y comprend rien, il y a un jour où tu n'étais plus le même. » Mais j'ai posé la question « Comment est-ce que j'étais ?» Mais tu étais souriant, tu étais gay, tout ça. Avant, tu étais un peu renfermé, pas toujours content, etc. Et quoi ?« Oh, mais tu pétais la forme avec tout le monde !» Et tu avais une énergie pour donner cours et tout, et tu aimais la vie, et tu aimais tout le monde. Les amis, c'est les autres qui voient parfois ce que Jésus fait. C'est les autres qui sont le miroir de ce que nous sommes. Et ce que je veux vous dire, c'est qu'il faut absolument fléchir le genou devant Jésus pour être changé. Alors je vous lis ce beau texte, et j'en finis aujourd'hui avec ce texte. Je vous encourage à aimer Jésus. C'est le trésor de la vie. Philippiens chapitre 2, verset 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Le cœur, le vrai cœur, comme Jésus, lequel, existant en forme de Dieu, donc en ressemblance de son Père, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu. Donc, il s'est mis au rang d'un homme et d'un simple homme, hein, à Nazareth. Fils d'un charpentier, dans une région où il n'y avait jamais eu de prophète. Hein. Donc, il ne pourrait rien sortir de bon de ce coin-là. Quoi, hein. C'est des nuls, si vous voulez. Pour les gens de Jérusalem, c'était des nuls. Ben, il est né chez les nuls, comme beaucoup d'êtres humains. Jésus a choisi cette condition. Mais il s'est dépouillé lui-même. Donc, il a tiré sa gloire, il a tiré toute sa gloire. Il a laissé pour un certain temps en prenant une forme de serviteur, en grec c'est doulos, en devenant semblable aux hommes, simples hommes, ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Jésus est mort sur la croix. Quand je monte au champ régulièrement, il y a une croix quand j'arrive tout près du champ. Je sois à pied ou en tracteur ou en voiture. Je suis né en 48 et cette croix a été érigée en 48. À 18 ans, elle était complètement rouillée. J'avais ouvert l'évangile et j'étais triste de voir la croix de Jésus dans cet état-là. J'ai acheté un pot de peinture, j'ai tout frotté, j'ai remis toute la croix en noir, anti-rouille, et le corps de Christ en blanc. Anti-rouille. Aujourd'hui, j'ai 72 ans, jamais personne n'est venu refrotter la croix et remettre de la peinture. Mais qu'est-ce qu'on a contre Jésus pour le laisser de côté comme ça aujourd'hui? Pourquoi est-ce qu'on a toujours cette tendance à laisser Jésus de côté en Occident? Alors qu'il est la source de la vie éternelle, qu'il a donné sa vie pour nous. Cela me fait mal, les amis, de voir non pas le crucifix qui est laissé de côté, mais la vraie personne de Jésus. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Alors les amis, ce soir-là, quand dans mon lit, après m'en être pris à Jésus, en passant devant la croix, que l'Esprit de Christ me dit « Mais je ne t'ai jamais rien fait de mal, pourquoi m'insultes-tu? Pourquoi es-tu en colère contre moi ?» J'ai dû fléchir le genou de mon cœur, de mon âme, laisser mon orgueil de côté et ma rancune contre Dieu, ma révolte contre Dieu, alors que je croyais en lui. Vous vous rendez compte qu'on peut croire en Dieu sans être en ordre avec Dieu? C'est ça que j'ai réalisé. Et il faut fléchir tout genou. Pourquoi? Parce que le résultat au verset 5, c'est « Ayant vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ ». La récompense, quand on a fléchi, qu'on a abandonné le « je », le « moi-je », c'est que les sentiments qui sont en Jésus sont en nous. Et c'est ce que les copains ont compris le lendemain. Sans se référer à Jésus, il se dit « Mais c'est pas possible, il n'est plus le même ». Et il a fallu attendre 2 mois et demi, à la fin de l'année, lorsque nous étions relax, nous avions notre diplôme, nous étions entre copains dehors, pour qu'ils me disent cela. C'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que Jésus faisait une œuvre merveilleuse lorsqu'on lui donnait tout, on lui cédait tout. Et chers amis, c'est à vous que je m'adresse pour que vous preniez le même chemin. Que vous preniez le même chemin, que vous n'ayez pas peur de prendre le même chemin. Je prends Colossiens chapitre 3. Colossiens chapitre 3, verset 3. Excusez-moi. Colossiens. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, c'est-à-dire que la puissance de la résurrection de Jésus est venue s'installer en moi, en ayant vu et cru en Jésus, non seulement j'ai reçu les sentiments qui étaient en Jésus, mais j'ai reçu la puissance de l'amour, la puissance qui alimente les sentiments de Jésus, la puissance de la résurrection qui vient du Saint-Esprit. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Donc quand on est profondément attaché à Jésus, la tâche qui nous incombe, c'est toujours de chercher en haut, et non pas en bas, on ne trouvera rien sur la terre. Si, des choses provisoires, temporaires, limitées, pas détestables, il faut les aimer, mais ce qu'il y a, limité. Rien n'est divin sur terre, mais ce qui vient du ciel est divin. Et en Jésus, nous cherchons les choses d'en haut, parce qu'il est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. Mettez tout votre cœur, votre affection, votre cœur, vos pensées, vos forces, et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts, c'est-à-dire le vieil être coléreux, le vieil être coléreux et moi-je, le moi-je. Adam et Ève, c'est ça qu'ils ont hérité de Satan, le moi-je. Eh bien, ce moi-je est mort lorsqu'on s'est donné à Jésus. Je voudrais bien vous expliquer ce que c'est que le baptême de Jésus à la croix. Je l'avais promis la dernière fois, mais j'ai pensé que c'était trop vite. Je le ferai la fois prochaine. Nous sommes donc mercredi, ça sera vendredi, je vous expliquerai ce que c'est que la mort et la résurrection de Jésus et le baptême de Jésus à la mort et à la croix. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous sommes morts quand nous sommes avec Jésus. Nous sommes morts à la vieille vie. Vieille vie centrée sur nous-mêmes et sur nos passions et nos entêtements, nos rébellions, nos colères. Et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Humblement, notre vie sur terre est cachée avec Christ en Dieu. Pourquoi? Parce que le monde, lui, veut continuer comme il veut continuer. Donc, nous sommes cachés quelque part. Nous n'avons pas le dessus du... Nous ne sommes pas sur les pavois, nous ne sommes pas mis en exergue. Et si nous étions en exergue, si nous étions sublimés par la société, c'est qu'il y a un gros problème. Parce que Jésus n'a jamais été applaudi par la société et par le monde. Il y a un grand problème si nous cherchons le succès, même au nom de Jésus. Avec Jésus, la vraie vie était cachée dans ce monde. Elle porte des fruits et les fruits se dispersent à travers le monde. Mais cela se fait discrètement, humblement. Chaque fois que Jésus portait des fruits, faisait des miracles, enseignait, c'était humblement. Une des grandes caractéristiques de la vraie vie en Christ, c'est d'être caché en Dieu, en Christ, c'est-à-dire de marcher humblement avec notre Dieu. Dans ce monde qui cherche ce qui brille, ce qui domine, ce qui s'impose, Jésus ne cherche pas à s'imposer, il cherche à sauver, il cherche à transformer, il cherche à nous faire enfants de Dieu. Tandis que Satan propose la brillance, la domination et la gloire pour nous perdre. C'est à nous de choisir, les amis. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Voilà la promesse. Que Dieu vous bénisse, chers amis. À vendredi prochain.